Bon, je pense qu'on est à peu près au complet, on va démarrer. Je m'appelle Guillaume déjà, Guillaume Sochon. J'ai le plaisir d'animer cette table ronde qui va nous réunir pendant une heure environ sur le sujet des comment enseigner aux digital natives, ou qu'on peut appeler également génération connectée. Moi, je viens pas du tout du monde de l'enseignement à la base. Je suis du monde de l'industrie. Je travaille dans une PME en tant que responsable projet. Une PME qui s'appelle Cotral, qui fabrique des protections auditives. Et par contre, j'applique les méthodes, l'agilité au quotidien, je dirais, dans mon travail au quotidien avec mes équipes, pour manager les équipes, pour mener à bien les projets. Donc ça, c'est quelque chose qui me parle beaucoup. J'ai l'habitude en général de commencer mes ateliers par un petit icebreaker. Là, la configuration et puis le timing qu'on a ne vont pas permettre de faire bouger tout le monde, de faire se lever tout le monde. Par contre, j'aime bien aussi connaître le public avec qui je discute, les équipes. Donc si vous voulez bien, je vais juste vous commencer en vous posant une petite question rapide, pour savoir un petit peu d'où chaque personne vient. Donc je vais juste vous demander de lever le doigt si vous êtes concerné ou pas. Donc non, je voulais savoir déjà ceux qui viennent du monde de l'enseignement. Donc ouais, je dirais les deux tiers des personnes. Est-ce qu'on a des étudiants ou pas? Ah, bienvenue. bienvenue. Est-ce qu'il y a des personnes aussi comme moi qui viennent du monde de l'industrie ou du monde du tertiaire? Ok, donc c'est intéressant. Je dirais un bon tiers de la salle. Et est-ce qu'il y a des personnes qui sont venues juste pour voir, je dirais, parce qu'ils n'ont pas eu, soit parce qu'ils n'ont pas eu de place ailleurs? Il en reste. Non, ou voilà, par simple curiosité. Non, donc vraiment, une personne quand même. Donc très bien. Donc tu pourras nous dire à la fin si c'est vraiment si ta curiosité t'assouvit, on va dire. Voilà, et donc je pense que ma dernière question, elle est très simple. Je pense qu'ici, tout le monde est réellement concerné de près ou de loin, que ce soit en direct ou ne serait-ce que par son lien, par les enfants, enfin le fait d'avoir des enfants, etc. Ici est concerné par le monde des digital natives, on va dire, et de l'enseignement? Ok. Très bien. Très bien. Donc on va attaquer le vif du sujet. J'ai la chance d'être accompagné dans cette animation par François, qui est facilitateur graphique, qui a commencé à nous faire de très bons dessins et qui en fait va faire tout au long de l'atelier, en fait, il va mettre en dessin en fait ses réflexions et ce qu'il entend, ce qu'il comprend de nos échanges. Et donc régulièrement, enfin pas toutes les 5 minutes, mais 2-3 fois dans l'atelier, on se tournera vers lui pour avoir sa synthèse un petit peu et faire un petit zoom, on va dire, sur ses dessins. Ok. Donc, la table ronde va se dérouler en deux parties. Une première partie que moi j'appellerais parole aux institutions, j'ai la chance d'être accompagné de quatre experts, on va dire, autour de moi. Donc, je vais revenir sur cette partie juste après. Donc, ça va durer une vingtaine de minutes, je dirais une vingtaine de minutes sur cette partie-là. Et une deuxième partie où ce sera vraiment de l'échange entre vous et l'ensemble des personnes, je dirais. Et là, ça durera une petite trentaine de minutes. Ok. Alors, je vais présenter les institutions, tout simplement, pour démarrer. J'ai ma petite anti-sèche parce que je vous avoue que je ne les connais pas toutes par cœur. J'ai commencé à apprendre un petit peu. Donc d'abord, on a Madame Berthier, qui est là. Madame Janine Berthier, qui est directrice du CEMU. Donc le CEMU, c'est le Centre d'enseignement multimédia universitaire. C'est un service de l'Université de Caen. Voilà, et l'objectif est de proposer des formations diplômantes, qualifiantes, à distance. Pas que, je vous laisserai en parler un petit peu plus après. Donc voilà, concernant le CEMU, nous avons également Madame Caroline Velchef, qui représente directrice territoriale du réseau Canopée Normandie. Donc le réseau Canopée, ça... Alors, je reprends ma petite... Réseau de création et d'accompagnement pédagogique qui édite, qui dépend du ministère de l'Éducation nationale et qui édite, produit et diffuse des contenus pédagogiques à destination des et fait de la formation à destination du corps enseignant. Globalement, je vous laisserai développer un petit peu plus, c'est vraiment une petite introduction. Nous avons monsieur Bruno Descamps, qui est inspecteur académique et inspecteur pédagogique régional d'histoire géographie, c'est ça, je ne me trompe pas, et qui représente le CARDI. Le CARDI, comme vous m'expliquiez tout à l'heure, le CARDI qui détecte des projets d'innovation et qui a pour objectif d'accompagner les équipes dans leur mise en œuvre. C'est ça, j'ai bon ? Très bien. Et nous avons monsieur Laboulé. Monsieur Laboulé qui représente les CMEA, Centre d'entraide aux méthodes d'éducation active. Centre d'entraînement. Effectivement, je ne devais pas faire l'erreur, je l'ai fait. C'est pour moi. Et c'est une association qui existe depuis 70 ans à peu près. Un peu plus de 70 ans. Voilà. Et qui prône, enfin qui porte des méthodes. En référence à l'éducation. Voilà, c'est ça. Très bien. Donc l'objectif, je vais vous passer la parole, je dirais, malheureusement on n'a pas beaucoup de temps, mais je vais vous passer la parole en 4-5 minutes chacun pour répondre à deux questions que François nous a affichées. La première étant en quoi et pourquoi les nouvelles générations connectées obligent le corps enseignant à s'adapter et à s'adapter à prendre une nouvelle pédagogie. Et la deuxième question, c'est par rapport à vos institutions, quels accompagnements vous proposez pour aider les enseignants. Voilà, j'ai tout bon. Je vais donner honneur aux dames. Madame Berthier, je vous passe la parole.
D'accord. Voilà. Donc bonjour à tous. Donc je suis Janine. Donc je travaille pour l'université de Caen. Et donc, je suis membre du CEMU, on va dire, pour faire simple, c'est un service d'ingénierie pédagogique. Voilà. Donc, on est un service qui vient en appui, en aide aux équipes pédagogiques pour tout projet pédagogique. Alors, évidemment, pédagogie en ligne, hein, pédagogie numérique, c'est-à-dire qu'on pilote une cinquantaine de formations qui sont, on va dire, ce qu'on appelle FOAD ou à distance ou en ligne. Mais on accompagne surtout et beaucoup les enseignants pour faire évoluer leurs pratiques pédagogiques. C'est-à-dire qu'actuellement, à l'université de Caen, on a les formations présentielles et puis les formations en ligne, à distance. D'accord ? Et l'objectif, c'est de faire évoluer et d'aller vers ce qu'on appelle de l'hybridation. C'est-à-dire l'université de Caen, part sur un projet sur 10 ans. Qui est d'hybrider les enseignements, c'est-à-dire de proposer à un étudiant qui s'inscrit à l'université, et surtout ce qui est important à dire aussi, c'est qu'à l'université, on a des étudiants, ce qu'on appelle en formation initiale, qui sont des jeunes étudiants, mais on sait que maintenant, les jeunes qui sont à l'université aujourd'hui sont certainement des personnes qui vont revenir se former à l'université ailleurs, mais en tous les cas, on aimerait bien qu'ils reviennent se former à l'université dans quelques années. C'est ce qu'on appelle la formation tout au long de la vie. Et là, on sait, quand on dit aux jeunes que, évidemment, là, on les forme, mais peut-être que dans quelques années, ils vont. C'est-à-dire qu'on les forme à des métiers qui n'existent pas ou des métiers qu'ils vont inventer, mais c'est-à-dire qu'ils vont devoir revenir se former. Et donc, notre projet à l'Université de Caen, c'est de permettre à un étudiant de suivre les cours, soit en présentiel, soit à distance, et éventuellement aussi certains cours en bimodalité, c'est-à-dire avec des activités d'apprentissage qui sont en ligne, mais des activités d'apprentissage qui sont en présentiel. C'est ce qu'on appelle à l'université l'hybridation, c'est ce qu'on appelle la comodalité, la bimodalité ou blended learning, si on utilise le vocabulaire entreprise. Voilà. Donc notre mission, c'est ça. Donc le CEMU, c'est une équipe de 30 personnes, un pôle d'ingénierie pédagogique, et puis surtout, évidemment, parce que faire évoluer les enseignements, c'est quand même aller aussi vers de l'usage du numérique, c'est-à-dire que si on parle d'enseignement en ligne, on parle de plateforme numérique. Donc on a un gros pôle, un gros studio de production pédagogique multimédia. On a des vidéastes, on a des graphistes, on a des développeurs 3D, hein, puisqu'on se lance aussi dans des projets dits innovants, hein, tels que les serious games, les MOOC, tout ce qui tourne autour de la gamification et de la ludification. Donc voilà pour la présentation, mais j'ai commencé un petit peu à aborder aussi la nécessité d'évoluer, d'innover. Alors, les digital natives. Alors déjà, digital natives, derrière cette notion, il y a le fait, l'impression que, ces jeunes, ils baignent dans le numérique, donc ils maîtrisent parfaitement le numérique. Et en plus, a priori, ils seraient capables de gérer plusieurs choses à la fois. Ils seraient multitâches. Et ça, alors je ne sais plus le nom, mais il y a deux chercheurs qui ont fait des études là-dessus. Rien, il n'y a rien pour le moment qui valide ce constat. Et au contraire, ça c'est un mythe. Il y a aussi le Pascal Plantard du CREAD de Rennes qui lui utilise le terme de complexe d'Obélix. C'est-à-dire, oui, c'est pas parce qu'on est tombé dedans tout petit, finalement, qu'on sait qu'on n'a pas besoin de formation. Déjà, donc ça c'est vraiment un élément fort. Ça, on fait le constat à l'université, c'est que les étudiants arrivent, ok, ils maîtrisent parfaitement les réseaux sociaux. Mais tout ce qui est compétences numériques, finalement, ils ne sont pas si à l'aise que ça. Et ils ont besoin aussi de formation. Donc ça, c'est un premier élément. Alors, le profil aussi de ces jeunes étudiants, parce que là, on en arrive à la génération Z, voilà, les 14-23 ans. C'est vrai que nous, à l'université, notre enseignement est encore malheureusement beaucoup basé, mais pas que. Puis vous verrez, j'espère qu'il y a des anciennes universités qui vont venir parler d'expérimentation qui démontrent le contraire. Mais on est quand même encore dans un modèle cours magistral TD. Voilà. Et le constat, c'est que les amphis se vident, c'est que les étudiants ne viennent plus en cours magistral parce que c'est des étudiants qui n'arrivent pas à être concentrés sur des cours de même une heure, deux heures, alors imaginons deux heures, trois heures. Et donc là, c'est le fameux les amphis se vident. Pourquoi ils se vident? Ils se vident parce que les étudiants n'arrivent pas à se concentrer. Et puis parce que, donc il y a aussi une étude de fait qui est assez intéressante, qui est assez récente, où ils ont interrogé alors, la génération Z et la génération Y. La génération Y, quand on leur demandait quel était à la limite le meilleur moyen pour apprendre, ils disaient quand même à 65% oui, la lecture fait partie des meilleurs moyens d'apprendre. Et là, la génération Z, on arrive à 63% qui disent que le meilleur moyen d'apprendre, c'est la vidéo. Voilà. Et alors là, ça, c'est pareil. Je pense que l'évolution des enseignements, c'est vrai que la vidéo est, mine de rien, un moyen qui va permettre aussi de répondre à ce nouveau comportement d'apprentissage des digital natives. Donc ça, c'était intéressant aussi. La génération Y, pour 36%, ils préféraient travailler seuls. Donc en ligne, c'est assez intéressant. On dit, ils sont assez autonomes. Finalement, on se rend compte que la génération Z, finalement, ils sont 39% à se dire non, ils ont besoin d'un prof. Donc, ça, c'est le paradoxe. C'est-à-dire que ça les barbe de venir écouter quelqu'un. Ils veulent des vidéos. Puis c'est vrai qu'ils vont voir plein de vidéos sur YouTube. Nous, on a organisé un colloque l'année dernière. On a fait venir des YouTubeurs scientifiques. Et bien, à côté de ça, finalement, ils aiment bien aussi qu'il y ait le prof qui soit là et puis qui les guide. Donc, c'est assez compliqué. Donc, voilà un petit peu pour le contexte. Et puis dire comment on fait pour ça? Nous, c'est vraiment notre mission au CEMU, c'est d'accompagner les enseignants à évoluer à mettre en place ce qu'on appelle des méthodes de pédagogie active. Alors, qu'est-ce que c'est que méthode de pédagogie active? C'est-à-dire, il faut un peu que ce soit l'étudiant aussi qui soit un petit peu autonome, qui soit impliqué dans des activités d'apprentissage. Qu'il soit limite. Alors nous, on travaille beaucoup à partir des travaux de recherche de l'Université de Louvain, de Marcel Lebrun, et lui, il utilise un mot qui est assez des termes assez intéressants. Il dit qu'il faut les faire malaxer la connaissance, c'est-à-dire il faut leur faire faire des projets, il faut les faire réfléchir. Pourquoi pas, très bien, on peut très bien commencer un cours et le prof il n'est pas là, et c'est les étudiants qui commencent le cours, et l'enseignant va construire son cours à partir des réflexions et des productions des étudiants. Donc il y a ce côté malaxage, et puis il y a aussi un terme qui est assez sympa, il dit il faut leur faire réaliser un chef-d'œuvre. Il faut les mettre vraiment dans des situations actives de production. Donc nous, on accompagne et du coup, on a un dispositif qu'on a nommé « Se former pour enseigner dans le supérieur ». où on accompagne les étudiants, les enseignants, voilà, à ces méthodes pédagogiques. Et puis surtout, on les accompagne, alors on a des ateliers de formation, des actions de sensibilisation, mais surtout, on les accompagne sur des projets. Voilà, là vous allez voir, Élise va être là, Élise va intervenir, Élise, on l'a accompagnée, un jour elle est venue nous voir, elle nous a dit, moi, je fais travailler mes étudiants, j'ai créé un petit plateau de jeu, style jeu de loi, mais ça m'embête parce que je peux jouer avec eux qu'en présentiel, puis il y a des fois le cours est terminé, on n'a pas fini, elle m'a dit, eh ben, moi j'aimerais bien une version en ligne. Elle est venue nous voir, parce qu'on lance des appels à projets hein, pour les enseignants qui sont un peu innovants, et puis ben, ça fait 3 ans. Et là, on sort un produit, vous allez peut-être en entendre parler, qui s'appelle J-Cube, parce que J, 3J, je joue et j'apprends, c'est ça, Élise. Et c'est une application, c'est un générateur de plateau, de jeux de plateau pédagogique. C'est-à-dire, un enseignant pourra, à partir de gabarits, alors en plus, on a fait toute une recherche d'univers graphique, créer un jeu de plateau à partir de sa discipline, quelle que soit sa discipline, le profil des étudiants, et comme ça, va pouvoir eh ben, intégrer le jeu dans ses activités pédagogiques. Donc on a des enseignants aussi qu'on accompagne sur des projets de MOOC, de jeux sérieux, enfin voilà, plein de choses.
Bonjour, donc François Laboulé, les CMEA, Centre d'entraînement en méthode d'éducation active. Donc une vieille association, voilà, qui, association d'éducation populaire, et qui est connue sur la formation BAFA, BAFD, la formation des animateurs. Voilà. Donc, on est essentiellement axé sur la formation par rapport à la Ligue de l'enseignement, les Franca, qui eux aussi, sont aussi organisateurs de centres de vacances. Donc on est fait partie de la même, même famille, on va dire, éducative, mais on est essentiellement sur de la formation. Moi, je suis un peu. Alors, comme on est une association, on n'est pas des enseignants, mais on travaille, on contribue à la formation des enseignants. On est une association complémentaire de l'école, donc qui a une convention pluriannuelle d'objectifs avec le ministère de l'Éducation nationale, de la culture, des Outre-mer, enfin voilà, la plupart des ministères. Mais on n'intervient pas directement auprès d'élèves. C'est simplement le titre du point de vue CMR, je ne vais pas parler le nom de tous les CMR, mais comment enseigner au digital natif, rien que ça, c'est difficile pour une association complémentaire de l'école de trouver sa place. Voilà. Parce que ça induit déjà un certain nombre de choses dans les mots. Déjà, digital natif, je ne sais pas exactement ce qu'il y a derrière, quoi, ce que ça veut dire. Voilà. Donc, je suis attentif aux mots aussi, parce que les mots, derrière les mots, il y a des concepts, il y a des idées, il y a des parcours, et puis il y a surtout un positionnement qui permet de se situer pour mieux agir. Voilà. Comment nous, on peut se situer dans cette question-là, en tant que CMEA, par rapport à Canopée. On a un point commun, hein, on va le dire tout de suite. On anime un dispositif éducation aux écrans pour la Normandie, qui est un des plus gros, pas l'un plus gros, le plus gros en France, qui touche 8000 jeunes. Donc, il y a chaque jeune participant à ce dispositif un parcours d'une dizaine d'heures. Voilà. Donc, contribution de Canopée, du rectorat, de la région. Voilà. Donc, on a cette réflexion toute l'année ensemble. Donc, digital natif, je n'ai pas de définition. Moi, je n'en ai pas personnellement. Et comment enseigner? On dirait plutôt comment... Alors, c'est juste hein, comment enseigner, c'est une vraie question. Mais aussi comment éduquer, comment accompagner, parce que ça, c'est tout de suite descendant, c'est-à-dire comment des adultes doivent enseigner en direction des digital natives. Alors que nous, on est plutôt l'association qui situe le jeune dans contributeur participant à son apprentissage. Donc on pourrait dire aussi comment des digital natives, en gardant l'idée que je ne sais pas exactement ce qu'il y a derrière, peuvent contribuer à faire changer les méthodes éducatives ou l'enseignement des enseignants et des adultes. Pourquoi cette question-là? Je vais faire court, je vous assure. Il y a trois grands espaces, en tout cas, qui nous intéressent. C'est celui de l'école, évidemment, celui des temps de loisirs qu'occupent les jeunes, et celui de la famille. Donc, ça fait tout le temps, depuis longtemps, on pose la question comment ça s'équilibre, tout ça. Donc, c'est ces trois espaces, on veut dire, de vie, qui sont des espaces d'influence, c'est des espaces où on enseigne des choses, on apprend des choses en étant en vacances, au centre de vacances, on apprend des choses à l'école, on apprend des choses à la famille. Et depuis quelques années, est arrivé un quatrième espace, qui est celui de l'espace médiatique, qui a complètement envahi, en tout cas, absorbé les temps de loisirs. 50% du temps de loisirs des enfants se passe devant des écrans. Voilà. Juillet, août, vous avez déjà un mois qui est avalé par des écrans de toute nature. Voilà. Donc, et en plus, c'est avec l'émergence comme dire, des réseaux sociaux, c'est devenu transversal. C'est plus des temps comme ça, mais en effet, il y a des superpositions d'usages. qu'il faut vraiment questionner, vous avez raison, il faut, y aller très très finement. Ça dépend énormément, comme dire, si nous on le sait dans le dispositif éducation aux écrans, si on est en lycée pro, si on est en MFR ou si on est en lycée généraux, comme ce n'est pas les mêmes enseignements, il n'y a pas les mêmes apprentissages derrière, on voit que les lycées généraux sont beaucoup plus avancés sur l'esprit critique parce qu'il y a la notion de recherche, de faire de la recherche. Voilà. Un peu moins quand on est en apprenti dans un CFA, par exemple. Voilà. Ce n'est pas un jugement, c'est que ce n'est pas le même enseignant qu'il y a derrière. Donc, voilà. Donc ces trois espaces-là ont été, en tout cas l'espace des loisirs, très très vite a été absorbé par l'espace médiatique. Et puis, évidemment, avec les réseaux sociaux, comme c'est en fil continu, voilà. On se débranche jamais. Hein. Je ne sais pas si vous avez déjà demandé à des élèves de débrancher leur smartphone en rentrant en classe. C'est compliqué parce qu'on dit qu'on nous parle d'un objet qui est privé. Voilà. Donc tout, je vais directement aller à 3-4 questions, en tout cas qui nous agitent en permanence, comme dire au CMR. C'est qu'on est quand même dans une société du numérique qui est essentiellement dans des espaces commerciaux. C'est donc avec toute la qui pose des questions de fond en fait sur des valeurs et là où nous on essaie en tout cas d'éduquer sur le dispositif éducation aux écrans où il y a besoin d'une complémentarité avec l'enseignement de ce qu'il y a à enseigner ou ce qui devrait être enseigné plus tard, c'est par exemple sur des notions que même on peut se mettre tous au défi là-dessus, on le fait avec des parents, on le fait avec nos propres... on est dans une société qui tente à rendre le plus invisible possible ce que le citoyen devrait avoir connaissance. Je prends trois exemples, le gratuit et le payant. Pour des jeunes, c'est quoi la différence entre les logiciels libres qui sont gratuits et Facebook qui est gratuit ? Il est où le... Voilà. Donc ça, c'est un beau sujet. Ils ont des objets de recherche de façon avec dans le dispositif qui est, OK, vous connaissez très très bien Facebook, ils connaissent ça très très bien. C'est quoi l'économie de Facebook ? On pourrait dire de Google, voilà. Qu'est-ce qui fait que c'est gratuit ? Donc c'est quoi la notion de gratuité aujourd'hui ou de payant ? Voilà. La presse gratuite, la presse payante, vous pouvez décliner pas à l'infini, mais quand même, vous pouvez y passer du temps sur cette notion-là. La notion de vie privée, de privé, de public. Je posais la question à Bruno tout à l'heure, je dis la classe, c'est un espace privé ou c'est un espace public ? C'est pas si simple. J'ai posé la semaine dernière à l'ESN sur des formations d'enseignants, ils n'ont pas su me répondre. L'école, est-ce que c'est un espace privé ou un espace public ? Et pourtant, on leur dit, vous devez respecter votre vie privée, vous avez des temps publics, etc. Donc ces notions-là, en fait, elles sont complètement floues. Était beaucoup plus clair avant. Voilà. En tout cas, il y avait des frontières plus franches. Et c'est difficile pour un jeune qui vient, même s'il est armé avec tous ses outils, qu'il est performant, qu'il sait plein de faire plein de choses avec, il arrive à l'école et donc à certains endroits, l'histoire des écrans, on a suivi ça de près, de l'interdiction, l'autorisation des smartphones à l'école. C'était passionnant comme sujet, sauf exception. C'est interdit, sauf exception. Finalement, il pourrait y avoir que des exceptions. Donc c'est très troublant en fait pour des jeunes qui attendent de nous, en tout cas d'éducateurs, qu'on donne des repères pour se construire dans nos sociétés du numérique et du vivre ou du faire ensemble. Je prends un dernier exemple, individu collectif, puis je m'arrête là. Individu collectif, je dis, bah, non, je ne suis pas tout seul, je suis dans un réseau social, je suis dans un groupe sur Facebook, etc. Il n'y a pas plus individuel qu'un compte Facebook. Voilà. Comme identification. Voilà. Vous voyez, il y a plusieurs mots, ce que j'appelle des mots opposés ou complémentaires. Et nous, notre travail d'éducation à la citoyenneté, en tout cas, et à apprendre aussi avec ou enseigner, devrait aborder, en tout cas, accompagner ces jeunes digital natives qui ne trouvent plus ou qui n'ont pas appris, en tout cas, les frontières ou de ces mots qui s'opposent. Et on sait ce qu'il y a derrière. On pourrait dire aussi info des infos, etc. etc. Voilà.
Bien, bonjour, donc Caroline Velchev, directrice territoriale Canopée Normandie. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans la vie ? Ben, on fait, nous, effectivement, de l'édition de ressources transmédia et de la formation. Et déjà, quand je commence par édition de ressources transmédia, je commence par le cœur du sujet, c'est-à-dire que vous avez un éditeur qui, donc, historiquement, construit, élabore de la ressource pédagogique à destination des enseignants, mais j'y reviendrai, effectivement, s'adresse finalement à l'ensemble de la communauté éducative vous allez voir pourquoi. Et donc, se trouve, comme tous les éditeurs, hein, pas seulement nous, évidemment, directement impacté par les évolutions numériques et par aussi... voilà ce que François vient d'évoquer, effectivement, toutes les frontières entre gratuit, payant, et sur la question de la construction de la référence dans un monde numérique extrêmement chaotique du point de vue donc de l'information et de la connaissance. Donc, si je reprends la question de départ, sur les nouvelles générations collectives, l'objet des enseignants à adopter une nouvelle pédagogie, on se retrouve quand même sur l'objet de l'enseignement, si vous voulez, au départ, qui est la construction de la connaissance, qui est explosé en trois volets, si vous voulez. Donc, ça va résonner beaucoup avec ce que vient de dire François. Les data, d'accord, les données, les news, l'information, et knowledge, d'accord, les connaissances. Alors, je prends volontairement les termes anglais parce qu'en fait, donc, pour pouvoir construire une réflexion sur tout ça, on s'appuie sur un certain nombre de recherches. Donc, des chercheurs. Alors, une chercheuse, Anne Cordier, qui est à Rouen, qui travaille donc sur les enfants et grandir connectés, etc., qui a fait un boulot formidable. Et puis, tout un corpus de recherche sur les trois termes que je viens d'évoquer, data, news, knowledge, donc, qui nous vient évidemment donc, du monde anglo et américain. D'ailleurs, enfin, c'est des Anglais et des Américains qui ont en fait abouti à peu près à la même description, je dirais, du monde numérique dans lequel on évolue. Alors évidemment, pour nous, vous savez, quand on fait un travail d'édition, on essaye de faire de la référence, on essaye de construire de la référence. C'est un travail de bénédictin. On essaye, si vous voulez, d'être entre guillemets très précis, évidemment, sur toutes les questions des sources, sur toutes les questions de voilà, et sur la notion d'auteur, par exemple. Bon, alors et donc tout ça, vous voyez, je veux dire, c'est fini. C'est-à-dire qu'il faut complètement le repenser pour pouvoir continuer à faire, et ça, mes petits camarades de jeu qui sont autour de la table là, avec qui je travaille tout le temps, je leur dis toujours, nous, on essaye de faire modestement, mais de façon bénédictine, le travail de phares et balises. C'est-à-dire de continuer à construire des ressources, vous voyez ce que je veux dire, malgré tout, dans un monde numérique en mouvement qui voudrait effectivement effacer à la fois les notions d'auteur, les notions de référence, etc. Donc ça, c'est une des premières grosses difficultés. Et donc, je dirais que dans la relation qu'on a au quotidien avec les enseignants et les établissements, ce que je peux vous dire, c'est que justement, tout le travail qui a été fait sur le règlement des données, d'accord, personnelles, le RGPD, a conduit à tout à coup une nouvelle prise de conscience sur le fait qu'effectivement, quand on donnait ces données personnelles sur tel réseau social, etc., etc., donc les data, ça avait une destination ultime qui n'était pas forcément celle qu'on croit. Et que finalement, donc, par exemple, les environnements qui paraissent datés, ou je ne sais pas quoi, comme les ENT, les environnements numériques de travail, enfin, etc., etc., que tout le monde collectivement essaie de porter, finalement, retrouvent une légitimité, puisque donc sont des environnements, si vous voulez, qui permettent effectivement une très très grande sécurisation des données, dont on sait que les données des élèves, des profs, les données de tous les gens qui vont travailler sur tel ou tel projet ne seront pas revendues à je ne sais qui. Donc j'insiste parce que ça, c'est la base même de la relation qu'on essaye d'entretenir, vous voyez, avec, je dirais, le monde enseignant en général. Et quand je dis le monde enseignant, c'est parce que, en fait, donc, nous, on accueille aussi donc, directement des enseignants avec des classes pour effectivement faire évoluer les pédagogies, et puis aussi donc, des parents. Et ce qui nous intéresse derrière, finalement, donc Data News Knowledge, c'est les usages du numérique, donc à partir desquels on va travailler. Parce que finalement, tout est arrivé dans les mains de tout le monde, d'accord, la tablette, le téléphone portable, machin, etc., etc. Je dirais sans mode d'emploi, quoi. C'est-à-dire sans définition, minimale quand même de ce qu'on peut en faire, etc. Et ça, et de ce qu'il y a derrière, justement, effectivement, de l'invisible. Et ça, c'est très compliqué. Donc nous, en fait, tout notre boulot consiste à mettre en avant aussi, quand même, entre guillemets, ce monde invisible, pour qu'il y ait davantage, en tout cas du côté des enseignants, une conscience, voyez, de quels usages, pourquoi faire, est-ce que ça a vraiment un intérêt pédagogique ou pas. Bon, voilà. Et donc, nous, on fait partie d'un réseau qui s'appelle Réseau Canopé, donc qui est national. Donc, il y a 110 ateliers Canopé dans toute la France, qui sont un peu ce qu'on pourrait appeler des tiers-lieux éducatifs, ou donc qui sont vraiment des espaces de rencontre sur la pédagogie et beaucoup, effectivement, autour des questions numériques. Et l'idée, hein, effectivement, c'est de se faire accompagner aussi beaucoup par des chercheurs. Donc, on fait des laboratoires d'usage, sur telle ou telle pratique pour voir effectivement, vous voyez ce que je veux dire, si ça a vraiment une plus-value. Parce que d'un côté, il y a les effets de mode, et puis de l'autre côté, il y a la réalité pédagogique. Et il y a le troisième volet, knowledge, d'accord, comment on construit une connaissance, comment on construit une information juste, avérée, vérifiable, etc., etc. Et ça, pour nous, c'est une très grosse... Enfin, cette chaîne-là, hein, Data News Knowledge, pour nous, elle est essentielle. Alors après, qu'est-ce qu'on fait concrètement ? Donc je dirais qu'il y a trois modalités dans un atelier Canopée. Donc il y a 110 ateliers Canopée dans toute la France. Ils ont été labellisés, pourquoi ? Parce qu'en fait, effectivement, sous l'impact du numérique, on ne pouvait plus accueillir physiquement, les personnes de la même manière. C'est-à-dire qu'on a estimé que, effectivement, avec des designers, des architectes, etc., les espaces d'apprentissage étaient très fortement impactés par l'arrivée du numérique. Et là, je vais peut-être un peu vous surprendre, mais parce que le numérique permettait enfin de travailler sur une notion nouvelle qui est celle du bien-être. C'est-à-dire, effectivement, qu'on pouvait considérablement améliorer le bien-être collectif en s'appuyant sur de nouveaux outils de ce type. Et donc, pour terminer, effectivement, on a introduit donc sous l'impulsion donc de ces nouveaux outils et en regardant de près avec des chercheurs les usages, comment effectivement on pouvait faire évoluer les pédagogies, c'est-à-dire donc effectivement une grande demande donc de collaboration, coopération. Donc je ne vais pas redire ce que mes deux prédécesseurs ont dit. Et puis pour terminer effectivement sur en fait finalement la projection vers ce qui nous semble essentiel, tout ce qui va être les techniques de créativité. Donc c'est pour ça aussi que je suis là aujourd'hui au Printemps Agile, parce qu'effectivement, il me semble que tout ce qui va permettre à des collectifs, alors j'insiste sur les collectifs parce que ça va être un mélange enseignants, élèves, parents, associations, etc., où on va en fait travailler ensemble sur des projets concrets. Et donc nous, on accompagne actuellement les collectivités territoriales sur l'évolution des espaces scolaires dans les établissements scolaires. Et on fait des hackathons, des créathons, etc., etc., pour aider à repenser les espaces scolaires, mais non pas d'un architecte dans un bureau ou de la fille qui achète le mobilier scolaire sur catalogue dans un bureau de la région, mais bien en relation avec des usages avérés et réputés sur les besoins finalement véritables des usagers. Voilà. Donc...
Merci. Alors moi, je vais vous faire rentrer dans la salle de classe. Et je vais partir d'un exemple pour essayer de répondre aux deux questions qui sont posées ici. J'ai l'exemple d'un de mes profs là, qui fait travailler ses élèves de 4e, donc des gamins de 13 ans, qui sont soi-disant des digital natives. Et il leur dit, vous allez faire une recherche Internet sur Darwin. Mais en même temps, vous allez chercher des critères. Vous allez me dire quels sont vos critères qui vont vous amener à sélectionner tel ou tel site. Donc il a fait un recueil de données et les deux critères qui reviennent le plus souvent, c'est j'ai choisi ce site parce qu'il est connu et il est sérieux, et juste derrière, c'est parce qu'il est sur la première page de Google. Donc, c'est sérieux. Je ne sais pas si les élèves font vraiment le lien, je crois, pour certains sites, d'autres non. Il est sérieux parce qu'il est référencé et il est référencé de manière très très régulière. Alors là, ça pose tout de suite une question en termes de est-ce qu'on a besoin de changer notre pédagogie ? Bah oui, parce que ces questions-là, on ne se les posait pas, puisqu'il y avait un filtre qui était le filtre des éditeurs, des savants, etc. Aujourd'hui, tout le monde est auteur, tout le monde peut se déclarer savant. Il n'empêche que tout le monde n'a pas les mêmes compétences à énoncer des savoirs et des savoirs qui sont validés. Donc là pour nous, c'est une vraie question, c'est un vrai problème. Ça pose la question de la validité, de manière plus générale, ça pose la question de la validité, de la fiabilité de l'information. Que ce soit pour apprendre, donc apprendre des connaissances, ou que ce soit pour s'informer, alors là je reprends ce que disait Caroline tout à l'heure, sur les news, et puis il se pose aussi la question des datas, parce que on sait très bien que les datas individuellement vont enfermer, via les cookies, vont enfermer les élèves dans certains modes de certains sites et pas d'autres. En termes d'ouverture, alors qu'on espérait que Internet serait la grande bibliothèque du monde, on s'aperçoit que c'est un peu l'inverse qui est en train de se passer. C'est que tout le monde s'enferme dans sa bulle de référence et toujours à travailler sur la même chose. Donc comment est-ce qu'on travaille ça et comment est-ce qu'on accompagne ces transformations ? Alors, je prends juste un exemple, il y en a bien d'autres qui ont déjà été donnés. Je vous donne un exemple, un seul exemple. On a monté un groupe de professeurs de terrain avec des enseignants-chercheurs. Et ce groupe, on a voulu en faire un groupe de recherche-développement, c'est-à-dire de travailler en lien avec des collègues de l'université, non pas pour que les collègues de l'université nous disent ce qu'il faut faire au regard de leur recherche, mais pour que l'on puisse travailler à partir de questionnements professionnels, et essayer de voir comment la recherche peut éclairer ces questionnements professionnels et comment aussi, surtout, on peut, nous, gens du second degré, se mettre en situation de recherche professionnelle dans des cas. Alors, il y a plusieurs questions, je vais juste vous les citer, qui sont des questions que nous travaillons en ce moment. C'est, la première, c'est en contexte scolaire, comment font-ils pour aller chercher de l'info? Comment naviguent-ils, ces petits jeunes? Et on essaye de déterminer si derrière ces manières de rechercher de l'information, il n'y a pas, et c'est là où on rejoint les digital natives, qui entre nous, soit dit, c'est du pipeau, les digital natives, ça n'existe pas, est-ce que entre leurs usages personnels et les usages scolaires, est-ce qu'ils font des transferts ou pas, et comment ils les font? Deuxième question qu'on se pose, c'est ce que je viens de vous dire, c'est comment est-ce qu'ils valident l'information? Ou comment est-ce qu'ils valident d'abord les sites et ensuite l'information? Troisième question, c'est une fois qu'ils se sont posé la question de l'évaluation, de la validation de l'information, quand ils travaillent sur les écrans, est-ce qu'ils lisent et interprètent de la même manière que quand on travaille sur des livres? Là, derrière, se pose la question de la littératie numérique. Est-ce qu'on développe les mêmes compétences ou pas? La réponse, c'est, on ne sait pas trop, mais il me semblerait que non quand même. Et puis, alors, le coup des data, je vous l'ai dit, tout ce travail-là, tout ce travail qu'on fait, toutes les questions qu'on se pose, ça nous place, nous, en démarche de projet, avec des acteurs qui sont des acteurs différents, qui n'ont pas ni la même culture, ni forcément les mêmes préoccupations, et où on essaye de résoudre des questions qui sont vraiment des questions d'ordre professionnel, de ce qui se passe dans la classe, pour apporter des pistes qui sont des pistes pédagogiques, bien évidemment. Donc voilà, j'ai fait court et je vous donne.
Merci beaucoup. Alors avant de passer à la deuxième partie, je vous propose de se tourner un petit peu vers François. Alors François, si tu peux juste, on va essayer de le faire ensemble, le décaler un petit peu. Et c'est juste pour que tu nous fasses un petit peu ton retour, ta synthèse, ça m'évite de la faire comme ça, par rapport à tout ce qui vient de nous être dit, qu'on fasse une petite synthèse tout simplement à partir de ton dessin. Je te passe la parole.
Ouais, merci Guillaume. Hop. On a des réflexions, on est parti effectivement de différents intervenants. Au début, on est parti de la notion de l'université de l'hybridation. Avec effectivement un positionnement qui est de former des gens à des métiers auxquels ils ne sont pas forcément préparés demain et de dire il y a des gens qui vont revenir se former. Donc ça, en termes de posture, ça interroge effectivement sur peut-être dans quoi on est inscrit aujourd'hui, dans le questionnement que les individus peuvent avoir et dans quoi on va les amener dans quelque chose aussi, un futur peut-être intangible sur des postures de métier. Avec l'ouverture liée au numérique, avec la partie présentielle, effectivement, on va ensemble dans des salles et puis à côté, on se retrouve en ligne. Y a la posture de l'étudiant qui a été mise en avant, avec ce qui est pointé aujourd'hui, le fait que le cours magistral, effectivement, là, en termes de concentration, on est moins impliqué à suivre quelque chose qui va durer 2-3 heures. Et on préfère se former sur YouTube. YouTube qui interroge, effectivement, c'est facile. On a les postures des gens qui créent des tutos, type on est tous créateurs de contenu, de films. Et avec ça, on peut effectivement transmettre. Donc, la manière d'absorber du contenu et de s'auto-former passe, en tout cas pour les étudiants, par YouTube. Avec quelque chose que vous avez souligné, c'est la posture de l'étudiant a quelque part aussi besoin de se rassurer dans une forme d'autonomie qu'il peut avoir, puisque il va regarder du contenu, mais il a aussi besoin de le valider avec un prof derrière, avoir quand même un retour. Donc un rapport avec un humain, avec quelqu'un qui a sans doute de l'expérience, pour valider ses enseignements. Il y a le cas aussi d'interroger, en termes d'approche pédagogique, des nouvelles formes ludiques, les jeux, ça tombe bien, on est dans l'agilité, donc apprendre par le jeu, donc on va avoir sans doute un témoignage après, tout à l'heure. On a aussi vu le mythe du multitâche, c'est vrai qu'on peut penser les digital natifs, on le fait aussi sans doute nous avec les téléphones, de passer d'une application, de switcher, etc. De dire que est-ce qu'avec ça on est tous multitâche, on est capable de gérer une tâche, une autre, etc. Il y a un mythe sur lequel, effectivement, ça n'existe pas. On serait plutôt, du coup, monotâche. Et ensuite, il y a le positionnement en termes d'association, effectivement, quand on veut encadrer, etc., qu'on nous parle de digital natif, quelle position avoir en tant qu'association, parce que ça demande la question en termes d'outils, d'accompagner une notion de transformation. Et puis aussi, la définition des digital natifs, ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'on met derrière? Un chiffre qui a été apporté, c'est de voir en termes de loisirs les étudiants, enfin les étudiants après peut-être en dessous, mais en termes de loisirs, ça représente 50% du temps passé sur, à faire du loisir. Je pense que sur les écrans, ouais, que j'ai dit autre chose, ils vont dans des parcs de loisirs. Faux ! Fake news ! Et en termes de positionnement aussi, en termes d'association, il y avait la question aussi du lieu, l'école. Est-ce qu'on est sur quelque chose qui appartient à un domaine quelque part privé, qu'on privatise, ou qui est public, qui reste ouvert? Il y a des recherches, en tout cas autour des données, sur l'apprentissage, les data, les nouvelles, etc., qui donnent aussi une forme de contenu à interpréter. Et la question du sens qu'on peut leur donner, et effectivement, de partir de cette posture du sens, en disant quel usage on peut en trouver, et de se dire que l'impact du numérique, effectivement, ça représente une opportunité, une ouverture, et de se dire derrière, via des laboratoires créatifs, comment on peut repenser effectivement des espaces éducatifs, parce que ça interroge, c'est une forme de porosité, il y a tous ces aspects-là. Puis aussi une remarque, c'est que l'ouverture d'Internet, où on se disait, ça peut effectivement créer des opportunités. Et un constat, c'est de se dire qu'on est peut-être tous dans notre bulle. Donc ça, quelque part, ça nous enferme. Et des remarques de ce côté-là, c'est de dire, pourtant, je suis dans un réseau quand on est étudiant. Donc il y a le regard générationnel de dire, nous aussi, on a été éduqués d'une certaine façon, avec le livre, etc. Donc il y a cette notion de transmission avec peut-être les étudiants qui ont des nouveaux repères apportés par le numérique. Mais avec la question aussi où nous, on a été aussi encadrés dans nos postures d'apprentissage avec les codes, effectivement, dans cette notion de transformation, ça reste assez organique. Et là, je crois, enfin, j'ai fait une synthèse. Je crois que là, tu vas lancer l'ouverture au public. Ok, donc café, tu les challenges, tu mets du boost.
On va essayer. Merci François. Donc j'espère que ça vous a donné un bon petit résumé. En tout cas, vous pouvez prendre des photos. Oui, allez-y, revenez vous installer. Donc la deuxième partie, ça va être une partie, je dirais, on va plus faire de l'échange, du partage et aller dans, je dirais, le concret du quotidien aussi des enseignants. Je vais vous demander, Élise et Jean-Luc, de venir nous rejoindre pour partir où vous voulez. Vous mettez où vous voulez. On peut même mettre deux chaises au milieu si vous préférez. Donc c'est pour partager avec nous un petit peu comment vous, dans votre quotidien, comment vous vous êtes vous adapté tout simplement comment vous avez adapté plutôt votre enseignement, votre manière d'enseigner au digital native. Et ce que je veux partager d'abord avec tout le monde, c'est que si vous voulez soit venir partager aussi vous votre expérience, vous pouvez venir directement, je vais rajouter, il y a encore une chaise qui est ici, venir, non, vous pouvez rester ici, on va faire un petit cercle, ceux qui veulent venir partager leur expérience, et si vous avez juste une question, une réflexion à partager, on va vous amener directement le micro dans le public. Vous n'êtes pas obligé pour, vous levez le doigt, et puis avec Agnès, on vous amènera le micro. Ok ? Honneur aux dames, Jean-Luc ?
Voilà. Bien. Bonjour à tous. Donc, je me présente, Élise Lelièvre. J'enseigne la biologie à l'IUT de Caen, donc à la faculté de Caen. Alors moi, effectivement, j'ai été un peu confrontée à un choc parce qu'en tant qu'étudiante, je n'ai pas finalement eu le même ressenti que les étudiants face aux cours magistraux. Donc déjà, il a fallu que je m'adapte aussi par rapport à la pédagogie que j'avais reçue. Alors je ne sais pas si c'est lié au fait qu'ils soient des digital natives, mais je constate effectivement que les cours en amphi se passent avec de plus en plus de difficultés. Après, je ne sais pas si c'est quelque chose qui est vraiment lié à la génération ou si on l'avait avant et en fait on se taisait. Voilà, donc ça peut être aussi une évolution dans la capacité à dire je suis contre le système. Et donc, le temps de concentration moyen, hein, c'est de 20 minutes. Hein. Et puis même, hein, maintenant, vous regardez une réunion avec des collègues, au bout de 20 minutes, il y en a qui décrochent et qui sont sur leur téléphone. Donc, je ne sais pas vraiment si c'est lié aux étudiants ou si c'est un phénomène de, voilà, de société générale. Donc, comment essayer de s'adapter? Alors, j'ai effectivement eu recours à l'aide du CEMU pour mettre les cours en ligne. Donc, au lieu de faire un cours, par exemple, qui dure une heure en amphi, parce qu'il y a quand même un peu d'interaction, ça représente à peu près 20 minutes sur une vidéo YouTube. Donc, je leur demande d'essayer de s'inscrire et de s'abonner pour essayer d'augmenter mon nombre d'abonnés et gagner un peu d'argent, mais ça n'a pas marché. Et donc... je leur ai proposé ça. Donc certains en fait ont recours à cet outil et disent que ça leur permet en fait d'avoir un meilleur apprentissage parce qu'ils sont plus concentrés. Déjà, ils peuvent le faire à l'heure qu'ils veulent. Les cours en amphi, par exemple, à l'IUT, c'est à 8h du matin. Donc déjà, je sais qu'il y a des études qui ont montré que, en commençant déjà à travailler à 9h, la concentration est meilleure. Donc déjà, ils peuvent y aller sur leur propre rythme biologique. Mais pour certains, après, quand j'ai fait un bilan en fin d'année, sur 110 étudiants, il y en a quand même 100 qui ont dit qu'ils ne voulaient pas que je supprime les cours et qu'il ne fallait pas que ça prenne la place de mes cours. Donc en fait, ils en ont besoin en support. Si à un moment donné, ils ont senti qu'ils ont décroché, mais en fait, ça les cadre quand même de venir. Donc, je leur dis souvent que je suis leur coach. En fait, on a plus un rôle de coach dans l'enseignement que vraiment dans la transmission. C'est un partage entre les deux. Donc, ça a été un peu des adaptations. Alors après, en amphi, comment on peut faire aussi pour essayer de les accrocher? Toutes les 20 minutes, en fait, c'est de mettre des pauses. Donc, soit en présentant une petite vidéo. Donc, c'est vrai que j'ai souvent recours aux vidéos de Canopée, même pour l'université. En faisant des petits quiz en ligne, en faisant des exercices, en fait. Et quand on fait des exercices en amphi, on a le silence, de concentration. Donc, pour essayer de les rendre actifs. Alors ça, c'est quand on est en amphi et qu'on est à 110, j'ai pas vraiment de moyens vraiment pour les rendre actifs pendant toute l'heure. Et après, par exemple, j'ai constaté que j'enseigne pour les préparations au CAPES, donc formation des maîtres, donc des futurs enseignants. Et même avec un public comme ça, j'ai de plus en plus de mal. Enfin, ça fait 10 ans que je le fais et je voyais que j'avais de plus en plus de mal à les rendre actifs, enfin, les rendre attentifs. Et en tout cas, après, dans l'évaluation des connaissances, je sentais que la transmission ne se faisait pas correctement. Et donc, j'ai transformé, en fait, peu à peu, tous les cours transmissifs, en fait, en ateliers, où finalement, ils travaillent sur des documents, je leur pose des questions, ils doivent apporter les livres sur lesquels ils... Alors, ça peut paraître, surprenant, mais ça marche mieux. Et souvent, il y en a qui me disent, on n'a pas l'impression de travailler, en fait, ils ont l'impression. Alors, il y a vraiment une réflexion à avoir, parce que c'est vrai que ça augmente le confort en classe, parce que je sens que les étudiants sont plus concentrés. Mais derrière, du coup, il est sûr que la quantité d'informations qui est transmise par ce type de support est moindre. Mais par contre, ce qu'ils ont appris, après, moi, je leur demande, par exemple, de me refaire un exposé derrière, parce que quand on expose, on apprend moins 40% de ce qu'on expose, alors que quand on écoute, c'est quand même moins. Donc, ils apprennent beaucoup plus, je pense, sur un domaine. Mais par contre, c'est vrai qu'on ne peut pas aborder la même quantité d'informations. Donc, c'est aussi un rapport au savoir. J'ai l'impression aussi que la nouvelle génération se dit que connaître, ce n'est pas forcément aussi fondamental qu'avant. C'est plus des compétences qu'on a à avoir. Parce que maintenant, on peut trouver les informations de partout, mais vraiment sans pas forcément se poser la question de savoir d'où vient l'information. Et voilà, tout ce travail-là que vous faites avec l'école, moi, j'ai l'impression qu'on en aurait besoin aussi à l'université, avec des étudiants qui arrivent en licence et qui doivent se prendre en main davantage dans leur apprentissage personnel. Et donc, voilà, c'est des réflexions comme ça qui peuvent être aussi menées à l'université et pas qu'au collège et au lycée. Alors après, pour le jeu, oui, dernière chose. Du coup, l'idée, c'était aussi d'apporter un aspect un peu plus ludique. Et puis, c'est des disciplines qui sont très compliquées, par exemple en systématique, donc c'est la connaissance de la biodiversité, donc pour donner des mots, chondrichtien, ostéichtien, on a tous l'impression qu'on éternue, mais ce sont des mots qui nécessitent, à un moment donné, il faut les apprendre. Et donc, quand il y a un passage obligatoire par la connaissance, je me suis dit, il faut essayer de le rendre un peu plus ludique. Et donc, c'est comme ça que j'ai eu l'idée de leur faire confectionner un jeu de loi où c'est eux qui font les questions. Donc, en confectionnant le jeu, en fait, ils sont obligés de relire le cours, et ils sont obligés de se poser la question de qu'est-ce qui est important, donc prioriser le savoir. Et c'est là qu'on réalise, en fait, quand ils confectionnent les questions, qu'ils ne comprennent pas forcément aussi, quand on fait un cours, qu'est-ce qui est important à retenir. Et donc, ça montre aussi qu'il faut les aider dans cet apprentissage à hiérarchiser l'information. Et beaucoup sont en fait en mode « je relis le cours » sans forcément essayer d'hiérarchiser ou reproblématiser. Donc on peut soit leur faire faire des jeux, soit par exemple, après il y a le CEMU aussi qui propose de faire des quiz en ligne. Et les quiz en ligne, ça leur permet d'utiliser l'informatique. Donc ils sont quand même assez agiles, enfin je ne sais pas si c'est vraiment le terme qu'on devrait utiliser, mais avec cet outil. Et ça leur permet de travailler le cours dans une autre approche qui n'est pas lecture en fait, et de leur donner des outils d'apprentissage un petit peu différents. Donc là, pour le CEMU, on est beaucoup aidé pour faire ça. Mais ça nécessite du temps et aussi aux enseignants d'apprendre à utiliser cet outil. Donc c'est vrai qu'avec l'emploi du temps parfois chargé de l'enseignant-chercheur, c'est parfois aussi compliqué à tout combiner. Voilà, je vous remercie pour votre attention.
À Jean-Luc.
Merci beaucoup.
Bonjour, donc Jean-Luc Lambert. Donc là, je suis au titre de professeur à l'université, donc en titre d'enseignant. Accessoirement, je suis aussi président du club Agile Normandie qui organise cet événement. Donc, en quoi et pourquoi une nouvelle génération connectée oblige-t-elle les enseignants à adopter une stratégie? Alors, je ne sais pas si elle oblige les enseignants à adopter une stratégie, mais en tous les cas, j'ai la particularité d'être parti 10 ans dans l'industrie et donc d'avoir arrêté d'enseigner pendant 10 ans. Et quand j'ai trouvé les nouveaux étudiants, j'ai quand même eu un choc. Ça avait changé, ça avait sacrément changé. Et ce que j'ai constaté, c'est qu'ils attachaient une valeur absolument considérable à mon expérience. C'est ce qui m'a marqué. C'est-à-dire que ces étudiants ont une ouverture vers le monde extérieur du fait justement d'Internet, justement de la connexion, qui peut être interrogée parce qu'elle n'est pas forcément rigoureuse ni complètement fondée, mais ils ont une ouverture qui leur permet de réagir, de s'auto-organiser. Ce sont des capacités absolument fascinantes. Et moi, je les adore. Vraiment, ce sont des étudiants que j'adore, ils sont extraordinaires, parce qu'on les met en groupe, on les fait travailler en groupe, on les met des challenges, ils ont une capacité à s'en sortir, c'est invraisemblable. Alors, ça amène à des nouvelles façons d'enseigner, parce que bien sûr, il faut de la rigueur, il faut vérifier les connaissances et tout ça. Bien sûr, le net, ça peut être un instrument redoutable. Mais quand même, ils ont une capacité à s'interroger les uns les autres, à s'apprendre des choses les uns aux autres qui sont fascinantes. Et moi qui suis informaticien, je sais très bien que les étudiants apprennent beaucoup plus l'informatique sur le net que dans les cours. Mais ils ont besoin des cours, parce que sinon, sur le net, vous trouvez n'importe quoi. C'est-à-dire du code complètement pourri, des choses nulles. Donc il y a besoin d'un recul de l'enseignant, qu'apporte l'enseignant, et ils en ont conscience en plus. Mais il faut travailler avec le net, il faut travailler avec les connaissances qui sont sur Internet. Ça, j'en suis absolument convaincu. Et il y a des modèles pédagogiques à construire qui sont vraiment très très intéressants. En tout cas, moi, je m'éclate. Donc franchement, je m'amuse beaucoup. Alors l'agilité, effectivement, les outils agiles, les rétrospectives, tout ça, ça peut être extrêmement utile. À noter que ce n'est pas du numérique, hein, du craft et des post-it, ce n'est pas du tout du numérique, c'est de l'humain, c'est du relationnel, c'est du présentiel avec les enseignants. Donc il y a quelque chose à construire entre leurs capacités. Alors ça peut être la pédagogie inversée, mais il y a quelque chose à construire entre je vais sur Internet, je trouve un peu n'importe quoi et j'essaie de le restituer auprès de mes camarades et des profs en groupe. Et puis je me banane parce que c'est pas du tout ça, et etc. Par itération successive, etc. Il y a vraiment des choses à construire. Donc je suis persuadé qu'il y a des nouvelles formes pédagogiques extrêmement riches à faire. En tous les cas, moi j'en expérimente certaines et ça me fascine. Vraiment, il me fascine. Il y a quelque chose. Ensuite, quels sont les supports qu'apporte mon institution par rapport à ces nouveaux publics? Il y a des outils, clairement, le CEMU, on est accompagné, on ne manque absolument pas d'accompagnement. Par contre, je n'ai pas l'impression que dans mon institution, qui est l'université, hein, je ne parle pas du tout pour les institutions du primaire ou du secondaire, je n'ai pas l'impression qu'il y ait eu un déclenchement de se dire « on a des nouveaux étudiants, il faut qu'on fasse quelque chose ». Pour l'instant, c'est « on râle parce qu'ils n'écoutent pas en cours » ou parce qu'ils sont avec leur smartphone. Alors, tous les enseignants ne sont pas comme ça, mais la majorité, quand même, ce qui domine à l'université, c'est la recherche. Et ça reste encore, chez beaucoup de mes collègues, on en est encore là. Alors, il y a certains enseignants qui, effectivement, font évoluer leurs pratiques, bien, fort heureusement. Mais je n'ai pas l'impression que l'institution se pose la question en tant que telle et qu'on ait un système d'accompagnement qui permette. On avait commencé avec le groupe Innovation. On pouvait accueillir des enseignants qui étaient en difficulté avec leurs amphis. Mais ce n'est pas encore institutionnalisé vraiment, et ce serait souhaitable que ça le fasse d'ailleurs. Je suis tout à fait prêt à y participer et je le soutiens fortement. Voilà.
Merci Jean-Luc. Alors, est-ce qu'il y en a qui, par rapport à tout ce qui vient d'être, d'être dit, qui ont soit une question à poser, ou soit un apport, une expérience à partager ? Oui.
Il a levé la main en premier.
Désolé. Voilà. Alors, écoutez, je trouve ça très intéressant. Parce qu'au niveau de... Alors, bon, je vais vous dire tout de suite. Moi, je travaille à CESI, Centre d'études supérieures industrielles. Et en fait, on est un organisme de formation. On a une école en alternance et une école d'ingénieurs. Donc moi, il se trouve que je suis responsable de la partie informatique de l'école d'ingénieurs sur Rouen, et bientôt à Caen, puisqu'on va ouvrir l'année prochaine. Placement de produit, ça y est, c'est fait. Voilà. Voilà. Merci. Et du coup, on est arrivé à la même conclusion, sauf qu'au CESI, on n'est pas parti du même point de départ. C'est-à-dire qu'à la base, on est très proche des entreprises. Et en fait, les entreprises nous ont dit, on ne comprend rien, les informaticiens, ce qu'ils nous disent, oui, effectivement, si tu fais mal ton injection de dépendance, ton Maven, il pète toutes tes builds. Voilà, ça, c'est fait. Et donc, du coup, on s'est dit, il faut qu'ils soient un peu plus humains, il faut qu'ils soient un peu plus... vendeurs de leurs solutions, un peu plus communicants, et qui prennent surtout en compte le fait qu'il faut vulgariser un petit peu ses savoirs. Et on s'est dit, il faut tout péter. Et, toutes nos façons d'enseigner, de former, il faut tout casser. Et donc on a été voir jusqu'au Canada, et on a été chercher une pédagogie qui s'appelle le problem-based learning. Désolé pour l'accent. Et puis en fait, c'est une pédagogie complètement active où les étudiants ils ont en face d'eux une situation qui pose un problème et par groupe de 10-12, ils doivent répondre à différentes étapes. La première étant clarifier la situation, évidemment, au début, quand on a un problème, le premier point c'est qu'on ne comprend pas. Et ensuite, à la fin, ils aboutissent à un plan d'action. Et ce plan d'action-là, on est là, à cette étape-là, on est là pour les aider à les guider. Et du coup, là, désolé, hein, c'était pas du tout prévu. Donc voilà. J'ai entendu parler de la posture de l'enseignant. J'ai entendu guide, j'ai entendu coach. Effectivement, du coup, ça touche. Quand on dit tout est pété, effectivement, ça aussi, c'est plus du tout la même posture. On est là juste pour les recadrer. Et en fait, on fait que leur poser des questions pour qu'ils aboutissent au bon plan d'action. Ensuite, ils ont un petit temps entre 8 et 16 heures pour aller apprendre les méthodes, alors par eux-mêmes, les façons de résoudre les problèmes. Par contre, avant, ils ont été un petit peu guidés sur oui, d'accord, n'en prenez pas votre calculatrice, apprenez les tables de multiplication. J'exagère parce que là, je parle d'informatique. Mais... c'est un positionnement qui est complètement différent. C'est vraiment basé sur de la maïeutique. C'est que des questions, que des questions, que des questions. Et puis j'ai entendu le besoin du cours aussi. Et sur le besoin du cours, et ben en fait, on a sur les ressources qu'ils ont entre 8 et 12 heures, et ben on leur a donné des ressources. C'est-à-dire que nous, on a fait un travail. Est-ce que cette ressource-là est fiable ? Est-ce que celle-là est fiable ? Et on... Est-ce que celle-là elle est intéressante, même si elle n'est pas 100% vraie, est-ce que c'est quand même intéressant qu'ils ne se creusent pas un petit peu la tête pour développer le sens critique ? Donc oui, à partir de la troisième année, des fois, on met des fausses ressources. Et ça, c'est quelque chose qui est assez intéressant de voir leur réaction. Mais vous n'avez pas vu la ressource que vous nous avez donnée là ? Et nous, on a le petit guide qu'eux, ils ne voient pas et c'est marqué à côté. Non, c'est celle-là, laissez tomber. Voilà, donc ça c'est... Voilà, bon, des fois, il se trouve aussi, on est humain, on se trompe aussi quand même, pour de vrai. Mais voilà, c'est intéressant de voir que vous êtes parti d'une observation qui est ils n'écoutent plus en cours, et puis changement de pédagogie, besoin de changement de posture, et puis aussi, qu'on arrive à la même conclusion en partant du besoin à l'arrivée, parce que si on les forme, c'est pour qu'ils bossent après. Voilà, je voulais juste dire ça.
Oui, bonjour Pascal. Donc, moi, je travaille aussi comme enseignant à l'université après 30 ans dans l'industrie. Donc, je reviendrai sur ce que Jean-Luc a dit. Les étudiants, ils apprécient vraiment les retours d'expérience, quoi. Ils préfèrent quand je leur raconte des projets vécus, des éléments qui se sont passés, des problèmes. Ils adorent qu'on leur parle des problèmes. Donc, c'est aussi un changement de culture parce que souvent, le prof, il veut démontrer qu'il a le savoir et qu'il ne se trompe pas, lui. Et donc, passer dans cette humilité à dire, bah oui, j'ai eu des problèmes, il y a des choses que je vous enseigne aujourd'hui, et je ne faisais pas comme ça il y a 20 ans parce que je ne savais pas, et j'ai appris et j'ai changé. Donc ça, je pense que c'est important de partir de l'expérience et de leur apporter aussi cette possibilité, quoi. J'aime bien leur dire, il n'y a pas d'erreur, il n'y a que des apprentissages, quoi, à condition de ne pas répéter les erreurs, bien sûr. Mais ça me semble important avec eux. Ensuite, sur les outils à utiliser, moi, je préfère les TD et les TP parce qu'on est en petit groupe, parce qu'on peut mettre les étudiants en situation. Et j'ai beaucoup de mes CM, puisque j'ai la chance d'avoir des promos qui sont petites, que je transforme en TD allègrement pour amener les gens à faire plutôt que d'appliquer ou d'écouter des cours, quoi. Et je sais que la première année où je suis intervenu, notamment dans un centre de formation, j'étais parti sur ce qu'on m'avait toujours fait. Donc beaucoup de slides, beaucoup de trucs. Et puis quand j'ai fait les examens, je me suis rendu compte, mince, il y a des trucs qu'ils n'ont pas compris. Et donc je me suis dit, voilà, il faut vraiment changer les choses. Et ça, c'était aussi un apprentissage de se dire, bah, il vaut mieux leur en donner moins, mais s'assurer que ce qu'on a voulu leur transmettre, ce soit acquis, plutôt que de vouloir en donner beaucoup. Et puis finalement... de se rendre compte après, a posteriori et parfois tard, quoi, que le message n'est pas passé. Voilà. Voilà. Voilà, il y a ça, et puis il y a aussi le fait parfois de leur dire, bah là, je ne sais pas, je vais chercher avec vous, on peut chercher ensemble, et si vous avez des sources, n'hésitez pas à les redonner, quoi. Je pense que ça, c'est extrêmement important. Et puis après, la variété, effectivement... utiliser la vidéo, utiliser des quiz. Et moi, je commence à utiliser assez souvent maintenant Kahoot, donc pour faire des quiz en ligne. Et souvent, je commence par ça, quoi. Je ne fais pas des quiz de vérification de connaissances, mais je fais des quiz pour voir où ils en sont, etc. Et ça permet déjà d'engager la discussion. Et ça marche aussi en formation professionnelle avec les adultes.
Merci. Alors, je sais qu'on a déjà débordé de quelques minutes. Il y a encore quelques personnes qui veulent parler. Est-ce que ça vous embête si on prend encore, allez, je dirais 5-6 minutes pour continuer, ou est-ce qu'il y en a qui préfèrent qu'on conclue maintenant? On peut prendre 5 minutes encore? 5. D'accord. Alors, il y a M. Laboulé déjà qui m'a demandé le micro.
Je trouve qu'il y a dans cette histoire d'apprendre, d'enseigner, etc., il y a un grand absent. On peut quand même observer... une chose, il y a un mot qui n'a pas été utilisé, c'est la coopération. Là. Ah ouais, mais entre jeunes d'accord.
C'est même c'est un mot. Ah,
d'accord.
Collaboration et pair.
Alors, on valide ça. Et après, dans les modalités, comme dire, de tous les jours, moi, personnellement, je suis entouré de beaucoup d'ados, mais on en rencontre aussi dans beaucoup de lycées où on va. Qu'est-ce qu'ils utilisent aussi, ça, c'est notre réalité, comme support, comme environnement numérique pour jouer de cette coopération entre eux. Voilà, je vois le week-end des ados qui s'envoient des snaps pour s'échanger des cours, s'entraider, parce qu'ils sont un peu à la ramasse, et puis lundi, ils ne seront pas prêts pour leur... Voilà. Donc, c'est-à-dire, moi, je n'ai jamais rencontré de jeunes qui étaient en mode échec pour s'ouvrir un compte sur Snapchat, sur Facebook, sur Twitter, sur autre. Voilà. En revanche... Je vois je suis pas dedans, donc je peux encore plus facilement observer les environnements numériques qui existent pour justement faciliter ça, cette coopération. Alors les ENT, des lycées, on s'entend. Je ne veux pas froisser qui que ce soit. Hein, je veux dire, j'observe juste que il y a peut-être dans ce champ-là des fortes avancées pour que, de toute façon, ils se prennent en main, entre eux. Ils se créent des tutos sur n'importe quel sujet, qu'ils diffusent. Là, je parle en dehors de l'école, hein, je parle en dehors de l'enseignant, mais voilà. Et c'est ça, je trouve ça super intéressant. Ça, c'est peut-être un des points de cette génération dont il faut se saisir. Et voilà, donc l'État, les collectivités, etc., repenser les environnements numériques pour aller dans ce sens, ou faciliter la coopération entre eux, entre pairs.
Merci. Alors,
on parle que des enfants et des jeunes, mais j'ai envie de dire, bon, il y a des plus jeunes, mais de nous d'abord, parce que moi, je viens du milieu de l'entreprise et j'ai envie d'enseigner, et j'ai deux jeunes enfants de 7 et 3 ans, donc je vis dans des environnements tous les... Puis j'ai mes parents, hein. Donc qu'on soit 70, 80 ans dans les générations. C'est-à-dire que là, la question que vous posez là, moi, je suis en train de me poser, moi, mes questions, et en fait, je suis venue ici pour répondre à mes questions. C'est demain, moi, je voudrais enseigner en école de commerce. Je me suis rendu compte que les ingénieurs sont très intéressants en faisant un start-up week-end. Nous-mêmes, comment on va leur enseigner? Parce que nous, on vient d'un autre modèle. Comment nous-mêmes, on recherche? Ça m'a fait poser des questions sur rechercher Google. Vous savez qu'après la deuxième page, moi, je m'arrête. Hein. Déjà, quand je fais la deuxième, c'est déjà bien. Donc, en fait, tout ce que vous avez dit là, c'est, pour moi, c'est plus que de se poser la question sur cette génération. C'est sur la nôtre aussi qui transmet le savoir. On est complètement perdu aussi aujourd'hui. Moi-même, je ne sais pas bien chercher sur Google comment je vais leur enseigner. Et j'adore le saisi, merci, monsieur. Parce que y a là, moi, qui vient d'entreprise, comment appréhender les problèmes? On n'a que ça à gérer, en fait, chez Cotral, j'imagine très bien. Voilà, et aujourd'hui, le savoir universitaire, j'ai vu, moi, un cours qu'on m'a donné pour aller expliquer la com digitale. Je me suis dit, mais pourquoi on veut me demander l'histoire de la com? Je veux bien essayer de leur faire un truc, je vais peut-être leur passer... les pubs d'M6 ou Culture Pub, parce qu'au moins ça sera rigolo. Mais on s'en... Excusez-moi, mais on s'en branle un peu, quoi. Donc je me suis dit, mince, c'est des gens qui sont des professionnels de l'enseignement qui sont en train de me demander ça à moi, mais je n'ai pas sûr que j'aurais envie de faire ça. C'est juste le point de dire que former les digital natives, il faudrait peut-être former les gens qui forment, nous donner les moyens, parce que... Et est-ce que qui le sait, j'en sais rien, mais il faudrait sacrément nous aider, hein.
Des situations pédagogiques inédites, comme je le disais tout à l'heure, où on met autour de, en mode projet, donc des gens qui, au départ, effectivement, entre guillemets, n'ont pas le même statut. C'est-à-dire qu'effectivement, les enseignants qui sont mélangés aux élèves, qui sont mélangés eux-mêmes au personnel de la collectivité, puis qui vont réfléchir tous ensemble et qui vont produire une intelligence collective sur tel ou tel problème ou problématique. Et donc,
un avocat d'aujourd'hui ou un technicien en sûreté nucléaire d'aujourd'hui il a besoin des mêmes compétences, voire plus, que celui d'il y a 10 ans ou 20 ans. Et comment on fait pour donner...
Pour faire grandir les gens et leur faire atteindre le niveau suffisant pour des métiers dans lesquels une certaine connaissance critique est nécessaire.
Voilà. Une petite réponse et puis après on va synthétiser.
Après c'est un avis purement personnel, mais je pense que le contexte professionnel les met en situation davantage d'apprentissage actif en fait. C'est un apprentissage aussi tout au long de la vie. Et par exemple pour les enseignants, je pense qu'il y a des choses moi-même que j'ai retenues et que je suis plus capable de transmettre maintenant que je suis en phase d'étudiant et que je suis en situation professionnelle. Et donc je pense qu'il faut aussi accepter que finalement l'apprentissage continue et se fait finalement s'ancre davantage dans le contexte professionnel. Et que finalement c'est plus des outils qu'on doit donner au départ. Mais bon, ça reste discutable. Hein. Et puis les concours font que de toute façon il y aura besoin d'un niveau de base de connaissances. Hein.
Merci. Et d'ailleurs, c'est totalement agile parce que c'est ce qu'on appelle, enfin, c'est l'apprentissage par l'expérience en fait. C'est un peu ce qu'on prône en agilité, c'est qu'on apprend en faisant des itérations, en ayant des échecs et petit à petit on s'améliore. Quoi. C'est exactement ça. Alors, je vous propose, c'est très intéressant et comme vous disiez effectivement, on risque de jamais s'arrêter. Je vous propose de passer la parole 2 minutes. Quand même à François pour nous faire un petit résumé de nos échanges via ses dessins. Et puis après, on conclura. Voilà. Tu as 2 minutes, François. Je te chronomètre. Hein.
Merci. Merci. Donc, pour faire une synthèse accompagnée des dessins, et puis si vous voulez rester après, on est venu sur des retours d'expérience avec Élise et Jean-Luc. On a eu un premier retour d'expérience sur effectivement une donnée, c'est la concentration, qui a l'air d'être une donnée en tout cas stable, c'est 20 minutes. C'est lié à un rythme biologique. Comment dynamiser ces temps quand on veut garder les gens captifs? C'est sur des temps de pause, en tout cas c'est un exemple, c'est après d'agrémenter ça avec des vidéos et des quiz. Ça permet déjà d'engager la discussion. Et puis, une notion importante, c'est les retours des étudiants qui disent « j'ai plus l'impression de travailler ». Donc ça, c'est quelque chose, en tout cas, de confortable dans la dynamique, de replacer effectivement peut-être l'enseignant dans une posture de coach, de dire « vous avez aujourd'hui les outils » et d'avoir effectivement ce rapport, ce qui a été souligné, une forme de cadre pour surtout eux les aider à prioriser en termes d'informations. L'exemple du jeu de doigts où effectivement les étudiants étaient amenés à eux-mêmes poser leurs questions, etc. Jean-Luc, toi tu t'éclates dans l'enseignement. On voit que grâce en tout cas sans doute à Internet, l'ouverture d'Internet, on récupère des étudiants qui sont curieux. Et là où c'est intéressant et c'est challengeant, c'est que ça donne en tout cas des nouvelles formes de pédagogie à inventer. Des postures aussi en termes accompagnés par l'agilité, c'est-à-dire qu'on va utiliser des post-it. Les post-it, c'est une fonction, c'est surtout que ça permet de remettre de l'humain dans les interactions, plutôt effectivement d'avoir des gens, comme vous l'aviez signifié tout à l'heure, d'être dans leur bulle. On a vu une posture qui vient du Canada, le problème base learning, avec l'accent. Donc on revient aussi à cette posture de coach, de dire apprenez à résoudre des problèmes, les étudiants ont des problèmes, et d'être là, effectivement, en feedback, pour avoir un niveau en tout cas de contrôle, d'orientation. Et là où on voit que c'est intéressant, pareil, retour d'étudiants, ils veulent avoir des retours d'expérience sur des problèmes pour être alimentés. Une autre question qui a été mise en avant, c'est effectivement sur les temps finaux, c'est de se dire, on doit apprendre à former au digital native, mais à contrario, effectivement, en termes de méthode et d'outils, moi, comment je fais dans ma posture pour qui c'est qui va me former, qui c'est qui va m'aider, en tout cas, avoir ces moyens en termes d'ingénierie. Et ça met en avant effectivement une notion d'apprentissage tout au long de la vie qui répond en tout cas à la cible du public. Donc on apprend tout le temps. Merci à vous. J'ai tenu le chrono.
Génial. Voilà. Juste merci à tous les intervenants et merci pour vos attentions. Merci beaucoup.